connaître. Alors, juste quelques mots sur la philosophie, puisque j'ai commencé par définir les termes. Je vous rappelle, la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Philosophia, c'est aimer la sagesse. Et c'est né dans l'Antiquité, au 5e siècle avant Jésus-Christ, avec le plus connu d'entre tous les philosophes, à savoir Socrate. Et en quoi ça consiste, la philosophie? Ça consiste à réfléchir sur la vérité et sur le bonheur, puisque celui qui est sage, c'est celui qui, à la fois... accès à la vérité, enfin cherche la vérité, donc c'est le savant, et c'est aussi le sage au sens de quelqu'un de modéré qui va adopter un comportement par rapport au bien et au mal, qui connaît le bien et qui agit de bonne manière. Donc là, l'approche philosophique de la question de la façon dont les robots vivent, dont les Japonais vivent avec les robots, ça va être de se demander qu'est-ce qui dans la culture japonaise les incite à accepter aussi facilement la présence du robot dans leur vie. Et est-ce que comme eux, est-ce que nous devrions ne pas en avoir peur comme eux, ou est-ce que nous avons des raisons autres que culturelles, des raisons objectives de nous inquiéter de ces robots? Avant de commencer cette réflexion, je vous propose de visionner un petit documentaire, enfin un extrait, je ne vais pas le mettre en entier parce que c'est un film qui dure à peu près 40 minutes, mais qui montre un petit peu la place que le robot occupe dans la société japonaise et donc les raisons, enfin une partie des raisons qui poussent les Japonais à aimer les robots. Voilà.
His patterns, and inclined to interpret them as real. Robots fascinating, especially if they look a little human. But they shouldn't be too human. That's when we start to feel uncomfortable. And if they act and think like a human being, we are suddenly at our wit's end. Invest billions in the development of intelligent human-like robots. We know they're going to arrive, but at the same time we're scared of them. In almost every robot film in the West, robots want to take over the world. To the Japanese, the robot is not a crook, but a hero. The Japanese love robots. In Tokyo, there's even a robot restaurant. And robots have played an important part in Japanese culture. Naho Kitano is co-owner of HiBot, a robot firm that produces specialist robots that can crawl into any space. About robot ethics and about the ancient tradition of using mechanical doors in Japanese culture known as karakuri.
From the 16th, 17th century, the Japanese people enjoy seeing something moving automatically. we were enjoying that. That was a fact here. We can see the history. So for that sense, yes, we can say that this is a tradition of the Japanese robot, probably.
For robots reflects on Japan as a nation of technology, but it also reflects on the age-old Japanese Shinto religion.
It's a new technology, and when Japanese people think of technology, technology had been always enhanced the quality of the life. It happened historically, first of all, that when civilization or westernization started in Japan, the technology made the change of the life. It was very innovative. So something the technological things always changes from Japan's point of view, our life's better. And second of all, Japan had a culture that believes any substantial items has some sort of soul. It's quite difficult to explain because the keyword of the soul, as for example in English, means and what we Japanese means of soul is different. Soul doesn't mean, for example, in a Catholic or philosophical way of spirit. It doesn't mean that. It's like something there. It's like ontological way. We believe that some sort of things there, although it there isn't anything. So why this understanding comes is because Japanese people understand society more as a harmonization, or I used to call it the betweenness. And this betweenness creates the society. So what I think of this item, or what I think of this person, and this between the communication, this part, creates the meanings to this item.
Robots with souls. To us, that's a problem. But the Japanese can identify with them. As we can see, when a robot dog is broken. After a two-hour drive from Tokyo, we find the Funabashi family at their small-town home. Next to the house is a workshop with a number of robot dogs. They are Aibos, built by Sony some 15 years ago. In 2007, they stopped building the Aibos, and in 2014, they stopped servicing them. Former Sony employee Nobuyuki Norimatsu took the Aibo servicing over when he noticed that many owners felt seriously sad when their Aibos broke down.
いろんな環境の中でAibo を飼ってるんですけれども、例えば食道されてたり動物アレルギーがあったりするような人たちがやはり飼われてて、 一つのファミリーの中のメンバーだということになってるんで、やはりそれが壊れるということは、そのオーナー様にとっては非常に寂しいことだというのをですね、つくづく感じています。オーナー様の教えることを少しずつこう覚えていって成長するタイプなので、一つ一つのセットに 性格があります。独立してます。そういうような形になってきますので、修理に来た時も、修理してる時によく喋る。あんまり喋らない。よく動く。あまり動かない。一つ一つ個性を持った相棒として我々のところにも来ますので、ペットですね。子供から言う。 ートナーになっている状況ですね。物の一つ一つに対して日本人は結構、まあ、海の神とか物一つ一つに魂があるっていうような感覚を持っているので、例えばそのロボットが自分のペットであるアゴトクルボクで、我々としてもそういうロボットを今度はいただいて、なんか部品に使うとかいう時には、やはりあのロボットから一度魂を抜く、魂をオーナー様にお返しをする、例えばお寺でお葬式をやったりですね、
places, Hiroshi Ishiguro's robot lab. He is specialized in robots that look very much like humans. He calls them Geminoids, robot tweens.
Geminoid のもう少し正確な定義っていうのが、実在する人間を、モデルにしたロボットっていう意味ですね。
私が操作してますので、よければ触ってみてください。もう触られてます。どうですか？触られてみて。そんなに怖がらないでください。
スタッフ本世代で、あとはもう全自動で。で、人間よりもはるかに多く人数さばけますし、中継いらないですし、文句いらないですし。
はい。
She's going to introduce herself.
こんにちは。私の名前はジェミノイド F です。これはバックライトのためのデモンストレーションです。私は人間型ロボットとして石黒犬で開発されました。アンドロイドの女性型のロボットです。
Un extrait d'un documentaire qui parle du rapport entre les Japonais et, les robots, et en particulier le fait que les Japonais sont un peuple, le premier peuple à ma connaissance, à avoir voulu créer des robots qui nous ressemblent parfaitement jusqu'à semer en nous le trouble ou la confusion avec un être humain. Alors, le but de la conférence ici, c'est d'essayer d'expliquer d'où vient ce goût des Japonais pour les robots, et en particulier les robots qui ont une apparence humaine. Alors, on peut dénombrer trois grandes raisons. Les premières, ce sont des raisons culturelles, d'ordre culturel. Alors, on le voit dans le documentaire, on voit une spécialiste du robot japonais qui nous dit que ce sont les croyances du Shinto, donc du shintoïsme et du bouddhisme, qui peuvent expliquer pour quelles raisons les Japonais sont beaucoup plus intéressés que nous par les robots et ça ne dérange absolument pas de vivre avec les robots. Donc pourquoi le shintoïsme et le bouddhisme ? Alors dans ces conceptions-là, dans ces spiritualités-là, pardon, tout être de la nature, ou même tout être artificiel, peut posséder une forme d'âme. Bon, évidemment, ce n'est pas le mot âme comme nous l'envisageons, c'est plus l'idée d'une présence, l'idée d'une énergie, donc quelque chose qui existe, qui est en rapport avec nous. Le bouddhisme en particulier rejette une idée qu'il y a un dualisme qui est propre à la pensée occidentale, c'est-à-dire une séparation entre l'âme et le corps, la matière et l'esprit. Donc le bouddhisme conçoit plutôt l'idée d'un tout avec des rapports d'harmonie entre les parties de ce tout. Donc il n'y aurait pas de raison de considérer que l'homme serait à part dans la nature, et il n'y a pas de raison non plus de considérer que les autres êtres, que l'homme n'est pas aussi des formes d'âme, bien qu'elles soient différentes de la nature. La deuxième raison, c'est une raison que Nakagawa appelle l'évidement de soi. Le fait que chez les Japonais, il n'y a pas la même définition de l'identité, de la personnalité que chez nous. C'est-à-dire que pour nous, les Occidentaux, et depuis avec Descartes en particulier, donc le dualisme cartésien, l'idée que nous sommes des sujets pensants et conscients avec une unité, une identité, une permanence dans le temps, cette idée n'existe pas pour les Japonais. C'est-à-dire qu'en fait, l'identité, le soi, change, évolue, et on emploie des termes chaque fois différents pour le désigner dans les circonstances. Par exemple, Nakagawa évoque une situation où un enfant dirait à son père qu'il a peur, et le père ne lui dirait pas « n'aie pas peur, je suis là hein ». Il n'emploierait pas le pronom « je », il n'y a pas ce pronom invariable dans la langue. Il dirait « ton petit père est là ». Donc en fait, c'est pour nous rappeler que pour un Japonais, il n'y a pas d'identité personnelle, donc en tout cas l'identité personnelle, elle vient du rapport avec autrui et de l'harmonie générale des choses dans la société et dans le monde, dans l'univers. Et donc il n'y a pas de raison qu'un robot ne puisse pas avoir lui aussi sa place et son identité. Donc voilà, je vous ai mis sur la diapositive hein, que dans le dualisme occidental, on considère nous que l'homme est un sujet pensant et conscient, qu'il est quasiment une exception dans la nature, qu'il est différent des autres êtres. Et donc il y a une distinction entre la matière et l'esprit. Donc une machine ne peut pas penser, un objet ne peut pas avoir d'âme, pour nous les Occidentaux. Alors deuxième catégorie de raisons, ce serait les raisons historiques, économiques et politiques. Alors les raisons historiques, c'est que le développement du Japon s'est fait grâce au développement de la technique et des technologies. Donc il y a une vision très optimiste des Japonais envers la technologie. C'est beaucoup moins le cas pour nous les Occidentaux. Il y a tout un mythe, beaucoup de fantasmes autour de la technique, puisque finalement le robot c'est quoi ? Ça n'est qu'une métonymie de la technique, c'est un objet technique le robot. Donc pour nous, la technique peut être un danger. On le voit dans les mythes, le mythe de l'apprenti sorcier, Frankenstein, ce que l'homme a créé échappe à son contrôle, et par conséquent, la technique peut se retourner contre nous. C'est ce qu'on voit dans les analyses philosophiques de Heidegger, par exemple, ou de Hans Jonas, qui nous disent que le risque de la technique, c'est que nous devenons nous-mêmes techniques et que nous nous considérons nous-mêmes comme des moyens, que la technique devient une fin en elle-même, et se retrouve contre nous et qu'on perd notre humanité. Donc il y a tout ce fantasme et toute cette réflexion dans la pensée occidentale qui n'existe pas vraiment dans la pensée japonaise, qui est très optimiste par rapport au développement de la technique et le contrôle, la maîtrise de l'homme sur la technique. Donc dans les usines, dans les gares, les aéroports, etc., on pense pouvoir remplacer la main-d'œuvre humaine, notamment parce que la population japonaise vieillit, et qu'on manque de main-d'œuvre, et que le robot semble être une solution pour la remplacer. Donc, on imagine bien aussi utiliser les robots de forme humanoïde, donc qui ressemblent aux humains, dans les hôpitaux, dans les maisons médicales, mais aussi chez le particulier, soit pour aider dans les soins, soit pour être carrément une compagnie aux individus. D'ailleurs, le professeur Ishiguro, que vous avez pu voir dans la vidéo, un peu plus tard dans le documentaire, il explique que selon lui, les robots humanoïdes sont beaucoup plus efficaces que nous pour aider les personnes âgées, les personnes seules, les personnes en difficulté, justement du fait qu'il n'y a pas, avec le robot, il n'y a pas cette pression sociale. Donc c'est nécessaire de fabriquer des robots qui ressemblent aux humains, mais qui, pour Ishiguro, seraient plus efficaces même que les humains. J'avais oublié de... Alors, ici, je vous ai affiché les raisons, cette fois-ci, scientifiques. Le professeur Ishiguro, que l'on voit ici avec un de ses humanoïdes, dit que l'androïde devrait être une science. Il parle de science androïde. Il dit que la recherche, le développement sur les robots de forme humanoïde va nous en apprendre plus sur les hommes eux-mêmes. Puisque en cherchant à reproduire, à faire ressembler les robots aux êtres humains, on est obligé d'apprendre chaque fois plus ce que c'est qu'un être humain. Donc pour pouvoir modéliser par une machine l'être humain, on en apprend plus sur l'être humain, et en retour, en fonction des réactions des humains par rapport à ces robots, on va en apprendre davantage encore sur nous. Donc c'est l'idée qu'on peut avoir une science robotique qui serait une science de l'homme, finalement. Donc je vous ai mis une citation dans une interview où il dit que les robots androïdes nous aident à mieux comprendre la complexité de notre nature, et donc on va pouvoir étudier la perception humaine et la communication. Alors, donc il dit approche philosophique de la question de la culture des robots, dit qu'on est confronté à des problèmes. Donc qu'est-ce qu'un problème philosophique? C'est quand nous avons, par rapport à une notion qui n'a pas de réponse scientifique ou qui n'est pas dans le domaine du scientifique, des réponses différentes, voire contradictoires. Donc première question que j'ai soulevée, c'est est-ce qu'il n'y a pas un danger à pousser aussi loin la ressemblance des robots avec l'homme? Est-ce que finalement on a besoin de créer des robots qui nous ressemblent parfaitement? Est-ce que ce n'est pas nécessaire de maintenir cette séparation, cette distance de l'humain, entre l'humain et l'homme-machine? Disons que les Japonais vont beaucoup plus loin que nous dans cette démarche, c'est-à-dire que les Européens, les Américains construisent des robots qui peuvent être de forme humanoïde, mais qui ne ressemblent pas au point de susciter la confusion, en fait, de semer le trouble ou la confusion. Les Japonais n'ont pas peur de ça. Ça ne leur fait pas peur. Alors du coup, la question que je vous propose, à laquelle je propose qu'on réfléchisse ensemble, c'est devons-nous, comme les Japonais, ne pas avoir peur de cette technologie des robots, hein, ou bien est-ce qu'on a des raisons autres que culturelles, donc des raisons qui seraient objectives, de nous inquiéter de ces robots? Alors, cette question, l'idée de la ressemblance physique, en fait, probablement ne nous dérangerait pas si ça s'arrêtait à ça. C'est d'ailleurs une remarque que fait Descartes dans les méditations métaphysiques. Hein. Il dit, imaginons, je suis à ma fenêtre, puis j'aperçois des passants, je peux très bien faire l'hypothèse qu'en réalité, il ne s'agit que d'automates, et que derrière ces vêtements sont cachés des mécanismes, etc. Mais très rapidement, hein, je vais me rendre compte que mes sens me trompent, mes sens me donnent l'illusion que j'ai affaire à des automates, alors qu'en réalité, j'ai bien en face de moi des êtres humains. Et comment je peux m'en apercevoir, hein, selon Descartes? C'est tout simplement que le robot, s'il est capable de penser, ne sera pas en fait un robot, ce sera un être humain. Enfin, l'automate, si je vois qu'il est capable de penser. Autrement dit, pour Descartes, ce qui définit l'être humain, c'est la pensée. Le fait que nous soyons des êtres pensants. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il y a cette différence absolue entre les machines et nous, à savoir la pensée? Donc si ce n'est que la ressemblance physique, on va vite démasquer le robot. Par contre, si le robot manifeste une capacité de penser, alors là, ça va être beaucoup plus problématique de nous situer par rapport à eux. Et c'est notamment la question que s'est posée Alan Turing lui-même, que vous connaissez sans doute. On pratique sur les automates actuels ou les intelligences artificielles actuelles le fameux test de Turing que lui appelait Imitation Game, donc qui consiste en fait à examiner si l'intelligence artificielle que l'on a en face de nous est capable de simuler parfaitement les pensées, les attitudes et comportements humains. Donc si une machine était capable de simuler toutes les pensées ou tous les comportements de l'homme, alors on serait en droit de penser que peut-être cette machine véritablement pense. Voilà l'idée du test de Turing. Or, il se trouve qu'il y a, il y a deux conceptions, enfin il y a deux positions possibles dans ce débat sur la pensée de la machine ou de l'intelligence artificielle, que je vais utiliser donc deux penseurs, deux philosophes actuels pour les porter, ces opinions. La première, ce serait le philosophe John Searle. C'est un philosophe, pourquoi que j'ai mis une diapositive sur lui. Donc c'est un philosophe qui propose une expérience de pensée. C'est l'expérience de pensée qu'on appelle la chambre chinoise. Donc il nous dit, concevons, je ne parle pas du tout chinois, concevons que je suis dans une chambre, dans une pièce, il n'y a pas de fenêtre, personne pour communiquer avec moi, la seule possibilité de communication c'est une fente qui est introduite dans le mur. On me fait passer une série de symboles chinois, je ne connais pas le chinois. La seule chose dont je dispose dans cette pièce, c'est d'un dictionnaire qui montre des correspondances des symboles. Je résume l'expérience de pensée. Et à côté de ça, j'ai moi aussi des symboles. Donc si on me fait passer par cette fente une série de symboles, il suffit que j'ouvre le dictionnaire, que je vois quelle autre série de symboles y correspond, et que je refasse passer ces symboles dans la fente. Le résultat, c'est que pour la personne qui est derrière le mur, la personne va avoir l'impression qu'il y a un vrai dialogue qui se met en place. Sauf que, en fait, qu'est-ce que Searle fait dans cette pièce? Il ne comprend rien au chinois, il ne comprend toujours pas plus au chinois après avoir utilisé ce dictionnaire, et pourtant, la discussion a bien eu lieu. Donc comment Searle interprète ceci? Il nous dit qu'avec cette expérience de pensée, on voit que le travail de l'ordinateur, c'est un travail computationnel, c'est-à-dire il calcule, et il effectue un ordre, un acte, il ouvre un dictionnaire et il répond à un symbole par un autre symbole. Mais il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas d'intentionnalité dans l'acte de l'ordinateur. Donc selon John Searle, aucune machine ne serait capable de produire de la pensée dans la mesure où aucune machine, enfin, la machine pourrait simuler le comportement humain, pourrait imiter le comportement humain, mais ne comprendrait jamais un contenu. Ou n'aurait jamais d'intentionnalité, c'est-à-dire dans la communication, une compréhension de ce qui se passe, de ce qui est échangé, des symboles. Alors, contrairement à Johnson, il y a un philosophe donc américain qui s'appelle Daniel Dennett, et qui dit, lui, il défend l'idée qu'il serait possible que la conscience humaine soit reproduite par une machine. Donc on peut imaginer qu'une machine puisse avoir une conscience. Il n'est pas d'accord avec John Searle. Et pour défendre cette idée, il s'appuie tout simplement sur une réflexion sur qu'est-ce qui compose, qu'est-ce qui permet la pensée humaine. Qu'est-ce qui permet la pensée humaine? Le support de la pensée humaine, on le sait, c'est le cerveau. Le cerveau est composé de neurones, et qu'est-ce qui se passe entre nos neurones? Et bien, il y a des échanges physico-chimiques et électro-physico-chimiques. Donc il y a une forme d'électricité aussi, finalement, comme dans une machine. Et il nous dit pourquoi des enchaînements de 0 et de 1, donc c'est le langage binaire des ordinateurs, ne pourraient pas produire aussi de la pensée, puisqu'on ne voit pas comment un neurone qui lui-même n'a pas de conscience et n'a pas de pensée, ou comment des éléments chimiques et électriques peuvent porter de la pensée. Autrement dit, ça renvoie à la question du cerveau, de la pensée de l'homme même, c'est-à-dire comment quelque chose de matériel, le cerveau humain qui est composé de neurones, de cellules, de molécules, comment quelque chose de matériel peut produire quelque chose d'immatériel, comme la pensée, les émotions, etc. Il dit donc qu'il n'y a pas plus de raison de penser que l'homme puisse être conscient qu'une machine, un ordinateur qui fonctionnerait non pas avec des molécules, mais avec des séries de codes binaires de 0 et de 1. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui se développe accomplit des nouvelles prouesses. C'est-à-dire que les machines ne font pas qu'interpréter des programmes. Aujourd'hui, les machines savent apprendre d'elles-mêmes. Donc les intelligences artificielles qui peuvent apprendre d'elles-mêmes, en les appliquant à la robotique, on a ce genre de robot humanoïde. Donc ici c'est Asimo. Asimo c'est un robot de Honda. Et qu'est-il capable de faire? Eh bien il est doté d'une marche intelligente, iWalk, qui lui permet d'adapter la marche en fonction du terrain. Donc il est programmé pour un certain nombre de... Enfin, il est programmé pour la marche, mais la marche elle-même, il l'acquiert au fur et à mesure des expériences. C'est-à-dire que le robot Asimo, au départ, ne sait pas marcher, et il apprend progressivement à marcher. Autre exemple de ce qu'on appelle le deep learning, le fait que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, les machines sont capables d'apprendre par elles-mêmes, c'est iCube. Alors iCube, c'est un robot cette fois-ci européen. Et lui, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Eh bien, au départ, le programme pour... il est doté de caméras dans les différents capteurs. On le programme pour saisir les objets. Et donc, on l'aide, hein, le premier objet, on lui donne. Et après, par lui-même, il apprend à saisir les objets. Donc ça peut prendre des semaines ou des mois. Donc je ne sais pas où il en est maintenant, iCube, parce que je crois qu'il a fêté ses 10 ans il n'y a pas très longtemps. Mais donc il faudrait demander aux chercheurs si ça y est, s'il a des nouvelles compétences. Mais on voit quand même assez loin aujourd'hui dans l'intelligence artificielle. Vous avez sans doute entendu parler, j'imagine, de Deep Blue. Hein. Deep Blue, c'est l'intelligence artificielle qui a gagné le célèbre Kasparov aux échecs. Il y a aussi eu Watson. Watson, c'est l'intelligence artificielle de chez IBM qui a gagné les meilleurs joueurs de Jeopardy, le célèbre jeu télévisé américain. Ou encore plus récemment, c'est AlphaGo qui a compris des prouesses, qui a gagné les champions du jeu de Go. Donc, et AlphaGo lui-même, le nouveau programme AlphaGo, est un programme de deep learning, c'est-à-dire qu'il apprend par lui-même à jouer au jeu de Go. Donc il n'y a pas, contrairement aux anciennes versions de AlphaGo. Donc le problème qui se pose, c'est que si on associe ces différentes technologies, imaginons, prenons les robots du professeur Ishiguro, qui sont parfaitement ressemblants à l'homme. Prenons les intelligences artificielles comme celle de iCube, celle de Asimo, si on réunit toutes ces recherches ensemble et qu'on crée le robot parfait, il est clair qu'on peut se diriger peut-être 15, 20 ans, 30 ans, que sais-je, vers un robot qui nous ressemblerait parfaitement physiquement et aussi qui simulerait parfaitement bien nos comportements et nos pensées, et voir qui serait capable d'apprendre comme nous finalement. Donc si on arrive à créer des robots de cette forme, la question philosophique qu'on peut se poser, c'est quels sont les enjeux éthiques. Donc moi, dans cette conférence, j'ai choisi de développer la question de la pensée, de la conscience, en se demandant si une machine pouvait penser. On a vu que, pour l'instant, on ne peut pas prouver qu'une machine pense, mais on ne peut pas non plus prouver qu'une machine ne pense pas. C'est pour ça que cette question est philosophique, d'ailleurs, parce que si on avait la réponse, elle serait scientifique, elle serait plus philosophique. Mais il y a d'autres questions philosophiques qui se posent, et si on a un peu de temps, ce serait intéressant qu'on puisse en discuter ensemble. C'est la question des enjeux éthiques, des implications éthiques. Comment pensons-nous pouvoir vivre avec des robots si les robots prennent forme humaine et s'ils adoptent une pensée, des comportements humains? Voilà. Donc, je suis à votre écoute si vous avez des remarques ou des questions, si vous voulez échanger. Ou alors, c'est terminé? Ah, d'accord. Oui, en fait, il nous reste que 3 minutes. Alors, peut-être une question ou une remarque si quelqu'un veut intervenir. Ça peut être une question, ça peut être une remarque, ça peut être une réponse par rapport aux enjeux éthiques, la question du travail, par exemple. Oui, il y a une question.
Par exemple, par rapport à tout ce qui est éthique, je pense à Isaac Asimov,
oui,
qui a écrit justement dans un livre de science-fiction les lois de la robotique,
oui,
pour justement éviter qu'un robot puisse heurter un humain.
Oui, est-ce que vous pouvez les rappeler, c'est
le... Je ne m'en rappelle pas précisément, c'est qu'un robot n'a pas le droit de faire du mal à un être humain. Il doit protéger les êtres humains et il ne peut se défendre que dans un certain cas, que j'ai oublié.
D'accord.
Si il respecte les deux.
Voilà. Les deux premières lois. Oui, alors justement, aujourd'hui, il existe déjà, il y a un cadre juridique déjà prévu pour les robots. Il y a des spécialistes, des avocats, des juristes, des magistrats qui ont réfléchi à ça déjà. Ils ont dit jusqu'où on peut, enfin, quels sont les droits des robots, qui ont anticipé en fait l'arrivée des robots. Et donc c'est déjà, sur ces questions éthiques, il y a déjà beaucoup de spécialistes du droit qui rédigent des codes de droit exprès pour les robots, ou en tout cas qui s'accordent avec notre droit sur les humains. De même qu'il y a des réflexions sur le droit des animaux. Mais donc à côté du droit des hommes, du droit des animaux, on a maintenant aussi déjà des codes de droit pour les robots. En particulier, je crois, aux États-Unis, en Australie, mais aussi en France, il y a déjà des programmes à l'étude sur des programmes juridiques de recherche sur le droit des robots. Oui, alors on va devoir s'arrêter. Je suis désolée. Bah, du coup, j'espérais avoir un peu plus de temps. Bah, merci à vous. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée.